pas suspendu de la Révolution, analyse critique de la réalité cubaine. C'est le titre d'un nouveau livre, paru aux éditions du Cerisier il y a quelques mois. Ce livre est composé de différentes contributions d'auteurs européens et cubains. Il a été coordonné par Eric Toussaint, président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, et par Yannick Bovy, journaliste et photographe. J'ai rencontré Yannick Bovy, et la première question que je lui ai posée, c'est celle de savoir qu'est-ce qui les a menés à écrire de nouveau un livre sur Cuba.
Mais je pense qu'on partageait avec Eric un constat et une envie. On partageait un certain nombre de convictions qui ont fait qu'on a été amené à travailler là-dessus. La réponse, c'est que... pour faire rapide, en général, sur Cuba, on a deux sons de cloche qui dominent. Le premier son de cloche, c'est celui des gens qui estiment que la révolution cubaine est quelque chose de fondamental, en quoi ils ont tout à fait raison, mais qui, face à l'ennemi mondial qu'est le capitalisme, et essentiellement les États-Unis, situés juste à côté de Cuba... ces gens estiment que dans ce contexte-là, on ne peut pas envisager la révolution cubaine de manière positive, mais critique. On ne peut pas faire de soutien critique. Il faut soutenir de manière inconditionnelle. Donc ça, c'est le premier son de cloche. C'est les gens qui disent « Cuba, c'est formidable, on ne pose pas de questions, c'est soutien inconditionnel parce que l'ennemi en face est trop puissant. » Et donc, comme on le dit dans l'introduction du bouquin, certains disent que faire des critiques ou soumettre la révolution cubaine à la critique, même constructive, c'est donner des armes à l'ennemi. Et donc, c'est déforcer la révolution. Ça, c'est le premier son de cloche qu'on ne partage pas. Le deuxième son de cloche qu'on partage encore moins, c'est celui des ennemis de la révolution cubaine, c'est-à-dire les gens qui estiment que Cuba est une dictature communiste qu'il convient d'abattre dans les plus brefs délais, parce que la répression des prisonniers, enfin c'est des prisonniers politiques dans les prisons, c'est de la répression sanglante, etc. Il y a des prisonniers politiques dans les prisons, quelques centaines. Je ne les justifie pas plus que je ne justifie n'importe quelle atteinte aux droits de l'homme, mais il n'y a pas non plus de répression sanglante à Cuba et ce n'est pas une dictature communiste. Donc ces deux sons de cloche qui sont... pas suffisamment nuancé, et donc c'est là qu'on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose, une contribution originale à amener, c'est dans une vision qui serait intermédiaire. C'est-à-dire, on part d'un soutien indéfectible à la révolution cubaine et à tout ce qu'elle a pu amener, et il y a énormément de choses, il y a des acquis formidables, il y a des conquêtes phénoménales dont on devrait aussi s'inspirer ici, nous. Donc il y a un soutien absolument évident à la révolution cubaine de notre part. Néanmoins, on estime qu'il y a un certain nombre de critiques qu'il faut faire si on veut que cette révolution se survive à elle-même et qu'elle puisse se développer. Surtout depuis 89, depuis le début de la période spéciale en 90, suite à l'effondrement du bloc de l'Est, de l'Union soviétique, qui contribuait beaucoup à la survie de Cuba malgré le blocus. Depuis cette période-là, il y a toute une série de... Cuba a dû se retourner, Cuba a dû mettre en place toute une série de réformes socio-économiques pour arriver à survivre à l'effondrement du bloc de l'Est à l'effondrement de l'aide qui venait de là-bas. Et donc toutes ces réformes ont amené toute une série de conséquences diverses, dont certaines ont des effets pervers assez importants. Et face à ça, il y a toute une série de pistes possibles, de décisions possibles. Je pense qu'il y a un regard critique à avoir là-dessus, sur la manière dont le pouvoir est possédé par Fidel et les gens qui sont autour de lui immédiatement, dans la manière dont le débat au sein de la société cubaine existe ou non, on en reparlera sans doute après du débat. Donc il y a une vision critique à avoir sur la révolution. La révolution cubaine, une révolution socialiste digne de ce nom, doit être une révolution permanente, sinon c'est une révolution qui s'ankylose, qui devient bureaucratique et qui va dans le mur. C'est malheureusement, je nuance, c'est malheureusement un peu vers ça que... qu'on va maintenant avec une révolution qui n'est pas suffisamment permanente et suffisamment autocritique. Donc on voulait amener ça, amener dans le cadre d'un soutien à la révolution cubaine, une vision un peu plus critique. J'en profite pour dire qu'une autre originalité de ce bouquin, à mon avis, c'est aussi le fait qu'il est constitué de beaucoup de contributions venant de Cubains eux-mêmes. Donc c'est pas simplement une volonté de gens occidentaux, européens, qui savent ce qui est bon pour Cuba et ce qui n'est pas bon et qui ont envie de faire la leçon. C'est pas du tout ça. Il y a un certain nombre d'Européens qui donnent leur avis critique, modestement, humblement, selon ce qu'ils ont pu observer là-bas. Mais il y a surtout toute une série de Cubains, plus ou moins proches du pouvoir, plus ou moins critiques dans leur approche, qui donnent leur avis sur aujourd'hui les réformes à Cuba, leur révolution, l'état de la révolution, l'état de la société après et pendant les réformes économiques, etc. Donc, pour terminer, ce qui sous-tend tout ce travail-là, c'est le formidable attachement qu'on peut avoir. Nous, je parle des coordinateurs de l'ouvrage et certainement tous les gens qui y ont participé, le formidable attachement qu'on peut avoir à cette recherche que mène Cuba depuis 42 ans pour un modèle de développement alternatif au capitalisme. Ça, c'est ce qui est fondamental. Et pour le mener plus loin, nous, on a estimé que c'était bien de montrer tous les acquis, de les souligner parce qu'on ne le fait jamais assez, mais aussi de dire ce qui ne va pas, parce que c'est de, comme on le dit dans le quatrième de couverture, c'est de la survie de la révolution dont il est question maintenant. Et si on n'est pas autocritique dans le cadre du soutien à la révolution aujourd'hui, bah, je pense qu'elle va dans le mur. Alors c'est pas forcément nous qui devons, on ne s'amène pas en disant c'est nous qui avons les bonnes solutions, c'est évidemment les Cubains qui doivent prendre ça en charge, mais on y reviendra sans doute. La question du débat au sein de la révolution cubaine et au sein de la société cubaine est fondamentale, et là il y a sans doute un problème pour le moment.
Il y a quelques semaines, pour la 10e année consécutive, l'organe le plus représentatif des Nations Unies, à savoir l'Assemblée Générale, a condamné le blocus criminel imposé au peuple cubain. Yannick revient maintenant sur ce blocus et ses conséquences au niveau politique, social et économique.
Donc le blocus a 40 ans cette année, selon qu'on décide de prendre en compte la levée, le début partiel des sanctions ou certaines mesures qui ont succédé, ces mesures partielles et qui ont fait que c'était tout à fait complet. Mais enfin, on peut faire remonter le blocus à 61, 62, donc ça fait 40 ans maintenant.
Donc il a été imposé 2 ans après la Révolution.
Ouais.
Donc pourquoi pas tout de suite en fait?
Ils ont un peu attendu de voir, évidemment. Donc une fois que les barbus sont entrés dans la Havane le 1er janvier, ils n'ont pas tout de suite, il a fallu que le nouveau pouvoir se mette en place, que les choses se goupillent un peu. Les États-Unis étaient évidemment extrêmement méfiants, mais tout n'était pas encore rompu, comme les contacts bilatéraux n'étaient pas complètement rompus, ce qui n'a pas traîné, c'était 60 ou 61. Et donc très vite, ils se sont rendus compte que l'économie cubaine prenait un caractère socialiste, on va dire, avec des nationalisations de grandes entreprises, avec toute une série de mesures qui ne convenaient évidemment absolument pas aux États-Unis. Et donc, dès que le caractère socialiste de la révolution a été proclamé, je ne me souviens plus de la date exacte, et qu'il y a eu toute cette série de nationalisations des grandes entreprises, là, la rupture a été consommée définitivement. Donc là, le blocage a été complet. Le blocage a été complet jusqu'à maintenant, avec deux renforcements, deux durcissements du blocus essentiel. La loi Torricelli en 91, qui renforce le blocus sur des tracasseries, le fait que des entreprises américaines situées dans d'autres pays que nord-américaines, donc états-uniennes, situées dans d'autres pays que les États-Unis à l'extérieur, ne peuvent pas, enfin sont, ainsi que d'autres entreprises européennes, mais qui utilisent du personnel ou du matériel américain, etc. Enfin, toute une série de tracasseries pour pour empêcher que toute parcelle des États-Unis éparpillée dans des entreprises un peu partout dans le monde ne puisse en aucun cas entrer en contact avec Cuba par des produits manufacturés, par des rapports commerciaux de pays à pays, par des échanges via bateau, etc. Enfin, tout échange est sanctionnable. Et donc, 91, la loi Torricelli, c'est le début d'une offensive sur, qu'on retrouve maintenant dans un autre contexte, mais si vous travaillez ne fût-ce qu'un tout petit peu avec Cuba, ne fût-ce qu'en utilisant un petit ensemble de matériel qui intervient dans la fabrication d'un... Je sais pas moi, si vous utilisez du fil de cuivre qui vient de Cuba dans la constitution d'un frigo, dans la réalisation d'un frigo que vous vendez en Europe, vous êtes sanctionnable par les États-Unis. Et on risque de ne plus... les États-Unis risquent de plus commercer avec vous. Donc c'est vraiment aller chercher loin. Ça, c'était en 91. Et puis alors, en 96... Deuxième étape, encore plus violente, avec la loi Helms-Burton, du nom de deux sénateurs américains, qui renforce ces mesures-là, mais en allant vraiment jusqu'à des mesures qu'on appelle d'extraterritorialité, qui font que quelqu'un qui commerce avec Cuba peut être... Donc quelqu'un qui commerce avec, par exemple, des anciennes usines ou des anciennes institutions économiques qui appartenaient avant à des ressortissants américains, toute personne qui commerce avec ces entreprises désormais nationalisées depuis la Révolution, s'expose à des poursuites sur le territoire des États-Unis, des poursuites juridiques, et donc peut être traînée devant les tribunaux nord-américains. C'est ce fameux principe d'extraterritorialité qui a été dénoncé d'ailleurs par l'Union européenne, qui s'est rétractée après. Elle a porté une plainte devant l'OMC, et puis elle s'est un peu rétractée. Et puis, donc la condamnation de la loi Helms-Burton est quand même relativement importante ailleurs dans le monde. Et la partie la plus sournoise, la plus méchante du texte de la loi est d'ailleurs... suspendu. Il n'a jamais été appliqué, en fait. Il est suspendu de 6 mois en 6 mois par les présidents nord-américains. D'abord Clinton, et puis Bush, il n'y a pas très longtemps, a suspendu de nouveau pour une durée de 6 mois l'application de ce titre, je ne sais plus combien, 6 ou 2 de la loi, qui met en œuvre ce principe d'extraterritorialité. Donc, alors, quelles sont les conséquences pour Cuba du blocus? Elles sont évidentes, enfin, ça se voit, ça se sent, ça se perçoit. Il ne faut pas être grand clair pour voir que le blocus est extrêmement efficace. C'est un cadenassage complet. Alors il y a évidemment des bateaux qui passent et qui accostent à Cuba. Mais toutes les démarches qui ont trait au commerce et aux échanges internationaux par bateau, par avion, etc., sont rendues extrêmement difficiles par le blocus. Le pétrole, tous les fertilisants qu'on ne trouve pas à Cuba et qu'on a besoin d'apporter, tous les produits d'importation, et Cuba c'est une île, donc il y en a des tonnes des produits d'importation qui servent à fabriquer tel type de produit. Enfin, tous les échanges commerciaux sont gravement handicapés par le blocus, qui est extrêmement efficace. Blocus qui est d'ailleurs renforcé par tout ce qui est toutes les mesures financières, de blocage financier, je veux dire en termes de crédit. Donc Cuba ne peut que très difficilement, ou alors à des taux usuriers, avoir des financements pour justement payer ses importations, faire des emprunts auprès des banques européennes, par exemple. C'est extrêmement difficile parce que c'est des taux d'intérêt absolument gigantesques à court terme, etc. Donc tout est rendu extrêmement difficile. Tout récemment, là, il y a quelques jours, pour la première fois depuis l'instauration du blocus, pour la première fois, les Américains ont accepté de vendre des médicaments et de la nourriture à Cuba sous prétexte, parce que l'ouragan Mitchell qui vient de dévaster le nord-ouest de l'île, plutôt à l'est de la Havane, mais enfin une grande partie des récoltes de certaines régions, de certaines provinces ont été détruites à peu près complètement. Et donc suite à l'ouragan Mitchell, les États-Unis ont finalement décidé de vendre des médicaments et de la nourriture à Cuba. C'est la première fois depuis, euh, depuis 42 ans. Et on peut voir là, alors que Bush est au pouvoir et qu'on pouvait supposer que c'était sans doute que ce serait encore plus virulent et encore plus violent que Clinton en termes d'opposition à Cuba. Alors qu'on pouvait supposer ça, ben on assiste un peu à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la détente. Alors je mets 50 guillemets parce qu'évidemment c'est le cynisme et l'hypocrisie continuent à dominer.
Il y a différentes forces qui se battent aussi aux États-Unis. Voilà. Il y a certains fermiers qui se disent que Cuba est un bon marché et tout ça. Bon.
Voilà,
il y a toutes sortes de forces. Il y a les pressions de l'extrême droite cubaine aussi. Mais
Juste ajouter deux trucs pour rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, sans doute que l'extrême droite de Miami est en train de perdre un peu de sa force. Enfin, elle est encore extrêmement néfaste, mais elle perd sans doute un peu de sa force, surtout depuis la mort de Jorge Mascanosa en 97, je crois, qui était le chef de file extrêmement dur et charismatique de cette extrême droite. Mais l'élément principal, c'est certainement le poids extrêmement important et de plus en plus revendicatif de tous les milieux d'affaires nord-américains, et notamment l'agro-business dont tu parlais, qui se dit « mais attendez, il y a un marché énorme, enfin de 10 ou 11 millions d'habitants à nos portes, à 70 km à 200 km des côtes de Floride, laissez-nous y aller, levez ce blocus, laissez-nous y aller, on va investir, on va rentrer dedans avec nos dollars et avec notre puissance économique. »
Et reconquérir l'île d'une certaine manière.
Et on sera beaucoup plus efficace que ces 40 ans de blocus qui n'ont amené à rien et qui n'ont fait quelque part que renforcer Fidel. C'est eux qui parlent.
C'est pas une vision très humanitaire, disons, on va lever le blocus pour laisser souffler un peu la population.
Non, pas du tout. Et c'est vraiment le poids des milieux d'affaires et des businessmen américains, nord-américains, qui trépignent et qui font un travail de lobbying gigantesque au Sénat et à la Chambre. Et derrière l'administration Bush, il le faisait déjà sous Clinton, mais on connaît les rapports les relations que Bush a dans tous ces milieux-là. Le lobbying est extrêmement virulent et au sein du Congrès aussi. Donc il est probable que ce poids ne va faire que s'accentuer. Alors jusqu'où est-ce que le blocus tiendra par rapport à ça? En tout cas, ce qui vient de se passer suite à l'ouragan Mitchell, c'est une brèche significative, quoi. Et donc à partir du moment où il y a ce type de brèche, c'est un précédent qui risque d'en amener d'autres. Bon, on verra les conséquences que ça peut avoir. Je pense qu'il faut être évidemment contre ce blocus et pour sa levée la plus rapide possible. Mais on verra ce que ça aura comme conséquence.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Le fait d'être complètement, comme disait Fidel, isolé dans un océan de capitalisme, a fait effectivement que Cuba s'est retourné vers le grand frère soviétique par proximité idéologique. Et donc ça a amené toute une série de... ça leur a permis de tenir. Ça, c'est clair que ça leur a amené énormément de choses, mais ça a amené aussi toute une série de choses négatives. Le fait que les rapports étaient quasi uniquement... se faisait quasi uniquement avec le bloc de l'Est, ça fait en sorte qu'on se dirige vers un certain type de production, notamment la monoculture de la canne à sucre, etc. Ça fait en sorte que les échanges commerciaux sont déterminés par certaines logiques économiques à l'œuvre en Union soviétique. Ça fait en sorte que que l'équipement paysan, industriel, mécanique, etc., est conditionné aussi par ce qui vient de là-bas. Et donc après, par exemple, c'est là que ça a été extrêmement difficile après 89-90 et la chute de l'Union soviétique, c'est que toute cette aide qui était venue pendant 30 ans, à partir du moment où elle s'est tarie, par exemple, tout à fait concrètement dans les campagnes, tout le matériel qu'utilisaient les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, enfin toute la mécanique qu'utilisaient les paysans dans les campagnes, c'était des pièces d'importation soviétique. Et donc à partir du moment où ça s'effondre, où le seul partenaire économique à peu près disparaît, ça te met dans une situation absolument dramatique, parce qu'il n'y a plus le pétrole qui venait de là-bas, il n'y a plus le gaz, il n'y a plus les pièces de rechange, il n'y a plus les fertilisants qui venaient de là-bas, il n'y a plus les échanges préférentiels pétrole contre sucre. Donc c'est surtout à partir de 89, la fin des années 80, c'était quand même ce qu'on appelait la meilleure période pour Cuba, avec quand même un développement économique assez important. Et puis, badaboum, tout d'un coup, 89-90, ça c'est la chute vraiment dans le creux de la vague le plus profond. Et ça, c'est dû au blocus. Le blocus a fait en sorte que le partenaire était un partenaire unique, à peu près, et que au moment de la disparition de ce partenaire-là, le blocus, ayant fait en sorte qu'il n'y en a pas d'autre, on se retrouve dans la merde la plus noire. Donc ça, c'est plus pour les considérations matérielles, dont les médicaments, les nourritures, la nourriture, etc. Sur le plan plus politique, c'est clair qu'un blocus, un embargo, on l'a vu dans d'autres pays, ça c'est toujours d'une manière ou d'une autre, malgré toutes les conséquences que personne ne va nier, et certainement pas moi, les conséquences évidentes pour la population qu'elle vit dans sa chair pendant des dizaines d'années, c'est toujours utile néanmoins, un embargo ou un blocus, pour les dirigeants qui sont au pouvoir. Parce que, comme tu disais, ça permet de... à Fidel Castro ou à tout autre dirigeant harcelé comme ça par un ennemi extérieur, de dire, ben, voyez, en face, c'est vraiment des méchants ennemis, et il faut absolument qu'on fasse corps contre cet ennemi. Et donc, je suis, moi, Fidel Castro ou un autre, le garant de l'indépendance nationale, de la survie de la révolution cubaine, le garant de nos institutions et de notre mode de développement contre cet ennemi, contre ce blocus. C'est clair que le blocus a été aussi utilisé, mais c'est de bonne guerre aussi. Je veux dire, quand t'es mis sous éteigne noir comme ça, sous l'asphyxie pendant 40 ans, ben, si ça peut te servir aussi sur le plan du discours, c'est de bonne guerre. Maintenant, je ne défends pas ça non plus, parce qu'à partir du moment où une révolution se dit socialiste, j'estime que l'essentiel, enfin son essence même, c'est justement la démocratie à partir de la base jusqu'en haut, à tous les niveaux de pouvoir, la plus réalisée possible. Et là, c'est clair que y a un certain nombre de manques par rapport à ça. Alors, on me répondra tout de suite à raison que, ouais, mais regarde ici, en Europe, en Belgique, ailleurs, est-ce que c'est ça la démocratie ? C'est pas ça que je dis non plus. Je dis pas qu'ici c'est la démocratie, certainement pas. Et il y a énormément de choses à Cuba qui se passent de manière bien plus démocratique qu'ici. Ça n'empêche qu'ici on est sous le capitalisme et que là-bas on est sous un régime, enfin dans le cadre d'une révolution qui se dit socialiste. On peut être autrement plus exigeant en termes de démocratie sous une révolution socialiste que dans le capitalisme, semble-t-il. Donc c'est pour ça que on fait toute une série de critiques par rapport à ça, par rapport au débat. Tu parlais du débat dans la société cubaine. Une des thèses de ce bouquin, c'est de dire qu'il y a énormément de choses qui sont extrêmement réussies, qui sont des grandes conquêtes, non seulement pour Cuba, mais qui peuvent en plus être prises pour un exemple pour des pays du reste de l'Amérique latine ou même pour des pays occidentaux et européens. Mais il y a aussi des problèmes de débat. Et une des thèses de ce bouquin, c'est de dire que le débat, autant, quand je parle du débat, je parle de la participation populaire, du débat de tous, de l'ensemble de la population, ce débat, autant il existe à tous les niveaux, dans toute la société cubaine, de manière transversale, dans les campagnes, dans les villes, dans les quartiers, dans les blocs de maisons, dans les édifices, dans les bâtiments eux-mêmes, autant il existe de manière généralisée sur toute une série de considérations de la vie quotidienne, et que je qualifierais plutôt d'annexe, pas d'accessoire, mais d'annexe par rapport aux grandes décisions qui engagent l'avenir du pays, ben autant il est inexistant, enfin, ou en tout cas confisqué d'une certaine manière, par rapport justement à ces grandes décisions qui engagent l'avenir du pays. Donc le débat existe à Cuba, le débat est permanent, tout le monde discute, tout le monde critique, tout le monde fait des remarques. Mais en ce qui concerne les grandes décisions politiques et économiques du pays, c'est Fidel Castro et les gens qui sont autour de lui qui prennent les décisions. Et la population, d'une certaine manière, n'a pas voix au chapitre concernant ces grandes décisions-là. Alors c'est très bien de pouvoir gueuler sur l'électricité du bâtiment qui tombe en panne tout le temps, ou sur l'ascenseur qui ne marche plus, et des choses comme ça, c'est fondamental. C'est par ça que ça commence, c'est la vie quotidienne. Mais si la population a le sentiment d'avoir... à ne pas avoir voix au chapitre sur les grandes décisions de politique économique ou de politique tout court, il y a une espèce de désintérêt comme ça, ou de frustration qui risque de nuire à la cohésion des gens autour du projet révolutionnaire, parce qu'ils n'ont plus le sentiment d'être concernés par l'avancée, le développement de ce processus révolutionnaire. Et c'est, à notre avis, c'est ça qui est en train de se passer pour le moment. C'est une certaine confiscation de la parole par des gens qui essayent de faire, je suis bien d'accord, qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour mener la révolution plus loin, mais sans consensus, sans cohésion sociale autour d'un projet politique commun, et sans la participation de tous à la définition, à l'élaboration et à la poursuite de ce processus commun, bah, il ne peut pas y avoir de survie de la révolution. Fidel le dit lui-même, il faut que chacun soit au sens être cette révolution pour qu'elle résiste et pour qu'elle demeure. Elle n'aurait jamais demeuré jusqu'ici si ça n'avait pas été le cas. C'était sans doute vrai jusqu'à aujourd'hui, mais on ne peut pas penser que ça va continuer éternellement avec tous les jeunes qui sont confrontés au tourisme, avec toute une série avec la nouvelle génération qui n'est pas concernée qui n'a pas vécu la révolution, qui n'a pas les antécédents révolutionnaires ou les référents historiques. On peut pas se dire on se raidit sur nos positions et ça va aller comme ça encore pendant 1000 ans. Il faut qu'il y ait une adhésion de tous derrière un projet politique. Et pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait participation de tous à ce projet politique.
Soy Cuba. Una vez aquí desembarcó Colón. Él escribió en su diario: es la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Gracias, señor Colón. Cuando usted me vio por primera vez, yo cantaba y reía. Yo saludé las velas con penachos. Creí que me traían felicidad. Soy Cuba. Mi azúcar se la llevaban los barcos. Mis lágrimas me las dejaban. Extraña cosa es el azúcar, señor Colón. Tanto llanto en ella, y sin embargo es dulce.
L'analyse qu'on essaie de faire dans ce bouquin est vraiment l'analyse la plus nuancée possible, parce que ce que j'ai dit précédemment pourrait être compris comme étant le point de vue occidentalocentriste ici, en termes de démocratie, de droits de l'homme, comme on l'envisage ici. Ok, je maintiens ce que j'ai dit. Maintenant, c'est évident que la démocratie, c'est pas seulement la démocratie politique, comme j'ai pu en parler il y a 2 minutes, c'est aussi un certain nombre de droits sociaux. Et évidemment, si la révolution a pu tenir jusqu'ici, c'est parce qu'effectivement, il y a des problèmes de démocratie politique. On peut faire ces critiques-là, et on peut les continuer tout à l'heure, mais il faut être bien conscient que la révolution cubaine, c'est aussi un nombre considérable d'acquis en termes de droits sociaux qui sont fondamentaux. Et donc il y a effectivement l'immense majorité de la population à Cuba, c'est très bien ce dont elle peut bénéficier, les conquêtes dont elle peut profiter depuis 40 ans. Enfin, je ne vais pas les répéter une millième fois, mais l'éducation gratuite, la santé pour tous, et dans la culture à la portée de tous, le sport et les indicateurs de développement social comparable à ceux des pays industrialisés, alors que Cuba est considéré quand même comme un pays reste considéré comme un pays du tiers-monde.
Et sous blocus
qui plus est. Donc vraiment, les conquêtes de la révolution, elles sont évidentes et gigantesques. Et donc c'est aussi ça qui a fait bien sûr que cette révolution a tenu et tient, c'est que tout le monde est bien conscient que sous le capitalisme, ils auraient évidemment pas eu ça, et tout le monde est bien conscient que, c'est pour ça que personne ne se prononce, tout le monde n'arrête pas de râler en disant « ouais, mais il y a plein de problèmes ici, Fidel fait chier », etc. Mais tout le monde est bien conscient des acquis de cette révolution, et c'est très bien que sous le capitalisme ce serait pire. Ça n'empêche qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour dire bon ben voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et ça va encore continuer comme ça indéfiniment. Je pense qu'il y a le gros enjeu maintenant, c'est cette énorme partie de la population constituée par les jeunes, par les tout jeunes, hein, il y a plus de la moitié de la population cubaine qui a moins de 20 ans. Tous ces gens, tous ces jeunes n'ont pas fait la révolution, entendent parler fidèles depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont grandi dans la crise, ils ont grandi en voyant arriver des touristes avec des belles bagnoles, l'air conditionné, les lunettes de soleil. La musique à fond et les dollars qu'on dépense sur les plages, bah, tout ça, ça fait un travail de sape extrêmement dangereux. Si tu combines ça avec l'absence ou le désintérêt pour les référents historiques, révolutionnaires, le désintérêt pour la légitimité que tout le monde reconnaît à Fidel par rapport à la révolution et tout ça, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. C'est un travail de sape, un travail de sous-culture comme ça qui s'insinue. Et qui fait que, il y a certains jeunes maintenant qui préféreraient peut-être avoir une paire de Nike que de se dire qu'ils ont l'éducation gratuite et que le fait de ne pas pouvoir voyager, c'est quand même pénible et qu'on irait bien aux États-Unis quand même, quoi. Et donc, c'est pour ça, si l'ouverture économique à certaines réformes de marché, au tourisme, au dollar, etc., ne s'accompagne pas d'une ouverture politique qui permet de mettre tout le monde dans le coup par rapport à la conscience très claire d'un projet politique qu'on défend tous ensemble, on va au casse-pipe.
Aujourd'hui, à Cuba, se développe un profond sentiment de frustration lié à l'apparition de l'inégalité face à l'argent. En général, les salaires sont faibles, mais une grande partie des besoins est couverte d'une part par la gratuité de nombreux services, éducation, système de santé, l'absence de loyer puisque 90% des habitants sont devenus propriétaires grâce à la révolution, et d'autre part par le système du livret de rationnement qui assurait jusqu'à ces dernières années toute une série de besoins de produits de nécessité. Aujourd'hui, cela ne suffit plus. Les gens ne peuvent plus vivre qu'une partie du mois avec ce qu'ils ont, avec ce livret de rationnement et la gratuité de nombreux services. Les Cubains rencontrent aujourd'hui de nombreuses difficultés et se remémorent un peu le niveau de vie qu'ils avaient avant la chute du mur de Berlin, avant la chute du bloc communiste. Dorénavant, quelques 30% des Cubains ont accès à une autre source de revenus. Ces autres sources, ce sont les dollars qui proviennent de membres de la famille en exil. Ils peuvent provenir également de salaires payés en dollars dans certaines entreprises, ou alors d'activités illégales, ou encore du secteur informel, mais aussi bien évidemment du secteur touristique. Lors de la chute du bloc de l'Est, et donc par conséquent de la remise en question de la plupart des échanges avec celui de ce dernier, les dirigeants cubains ont tenté de s'en sortir un peu en développant l'industrie touristique, qui est une source de devises par excellence. Le résultat est aujourd'hui un peu décevant. Yannick nous en parle.
Depuis quelques années, depuis le milieu des années 90, le tourisme a supplanté la canne à sucre en termes de rentrée de devises dans le pays. Donc avant, c'était la canne à sucre essentiellement qui rapportait le plus de devises de dollars au pays pour assurer ses importations, l'achat du pétrole, etc. Donc les devises dont elle a impérativement besoin pour survivre. C'est maintenant le tourisme qui a supplanté la canne à sucre comme revenu principal. Pour indication, cette année, on devrait, ce sera cette année ou l'année prochaine, l'objectif des autorités cubaines en termes de nombre de touristes, c'était 2 millions cette année, 2 millions de touristes par an. C'était 1,8 million l'année passée, et on devrait arriver à 2 millions. Enfin, avec le 11 septembre, il y a 10 ou 20% de fréquentation en moins en septembre et en octobre, en novembre, je ne sais pas. Donc ça risque peut-être de se tasser un petit peu, mais l'objectif est proche d'être atteint, en tout cas de 2 millions de touristes. Donc ça, ça a évidemment des conséquences énormes, parce que ça réoriente complètement l'économie. Il a fallu faire des investissements gigantesques en termes d'infrastructures hôtelières, en termes d'infrastructures de plages, d'alimentation des touristes, de transport des touristes, les bus, les voitures. Investissements qui ont été extrêmement coûteux, qui ont englouti énormément, une part énorme de toutes ces recettes justement que le tourisme rapportait, vers d'autres investissements, vers davantage de chambres d'hôtel, etc. Donc les retombées, Y en a. Il y a des retombées pour le peuple cubain, bien entendu. Et il suffit pour s'en convaincre de comparer la solution de la situation de 92-93 ou 91-92 avec la situation maintenant. C'est clair que les gens vivent mieux, qu'il y a une amélioration et qu'on sort du tunnel. C'est évident. Mais par rapport au bouleversement socio-économique que ça représente et politique, on peut en parler après. Il y a quand même des retombées assez faibles pour l'ensemble de la population. Il y a évidemment une partie de la population qui en tire un bénéfice très net. Tous les gens qui travaillent maintenant en lien direct ou indirect avec le tourisme, que ce soit dans des restaurants, dans des hôtels, toute une série de secteurs liés au tourisme, ces gens sont tout à fait privilégiés par rapport à d'autres gens parce qu'ils sont en contact de manière directe ou indirecte avec le dollar. Donc ça veut dire que quelqu'un maintenant, on arrive là au fameux schéma de la pyramide sociale, la pyramide inversée, où tu as des gens dont on pourrait considérer que ce sont eux les élites de la société, donc des gens qui travaillent comme universitaires, comme chirurgiens, comme chercheurs de pointe, etc. Tous ces gens qui sont plutôt des intellectuels, qui ne travaillent pas du tout dans le tourisme, n'ont pas accès au dollar, reçoivent leur salaire en pesos de la part de l'État. Beaucoup de ces gens gagnent maintenant beaucoup moins et sont dans une situation beaucoup plus défavorable que les gens qui sont, par exemple, qui transportent les valises des touristes à l'aéroport. Ouais. Donnons un exemple concret. J'ai un ami à Cuba qui travaille dans un centre de recherche universitaire. C'est un centre extrêmement poussé, donc c'est des gens vraiment de très très haut niveau, international. Il a une équipe de plusieurs personnes autour de lui. Il y a deux des personnes qui travaillent avec lui qui ont abandonné leur travail de chercheur pour aller porter des valises à l'aéroport. Donc ils ont des caddies et ils portent les valises des touristes à l'aéroport parce que ce qu'ils gagnent comme pourboire venant des touristes en une journée, c'est plus important que ce que le copain qui lui est resté gagne en un mois via son salaire fourni par l'État. Donc ça, et là, on arrive aux conséquences beaucoup plus par en dessous, beaucoup néfaste, sournoise du tourisme, c'est cette espèce de détricotage du tissu social par l'apparition et le creusement des inégalités de plus en plus criantes, avec une classe de gens qu'on pourrait appeler les nouveaux riches, des gens qui gagnent énormément d'argent en faisant le taxi, en louant leur voiture, des gens qui ouvrent un petit restaurant privé dans leur salon parce qu'ils ont une grande maison, gagnent désormais beaucoup, beaucoup plus que ces gens, chirurgiens, universitaires, enseignants, etc. Et donc ça détricote complètement le tissu de la société. Comment est-ce qu'on peut encore imaginer faire des études universitaires ou être prof d'UNIF ou faire des études de chirurgien pendant 6 ou 7 ans en gagnant des clopinettes, alors qu'on sait que si on arrête de se fatiguer et qu'on cherche un peu intelligemment le dollar, on peut gagner bien plus qu'un chirurgien tout de suite en vendant des cigares de contrebande, du rhum, en allant fricoter du côté des touristes. Il y a aussi la prostitution. C'est pas la prostitution massive qu'on connaît ailleurs, mais la prostitution est une réalité quand même. Donc ça a des effets qu'on ne peut pas quantifier comme ça très facilement, mais qui sont extrêmement pervers sur l'ensemble de la société cubaine. Et là, on revient sur la question de la cohésion sociale autour d'un projet collectif. C'est plutôt comment est-ce que chacun dans son coin peut se débrouiller pour s'en tirer le mieux possible. C'est assez difficilement compatible avec les ambitions d'un programme de révolution socialiste, hélas.
Dans le livre que Yannick a coordonné, Jeannette Abel, une des auteurs, cite Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique. L'information demeure essentielle à la bonne marche de la société. Pas de démocratie réelle sans une information de qualité. J'ai posé la question à Yannick, savoir quelle était la situation des médias, de la presse en général, à Cuba.
C'est, moi, je suis d'accord, évidemment, avec ce que Jeannette Abel dit. La caricature. Les médias à Cuba, c'est vraiment la caricature. C'est pousser le bouchon vraiment très, très loin. Donc, tu as des médias en petit nombre. Tu as 4 ou 5... J'exagère. Tu as quelques journaux, quelques revues, il y a des hebdomadaires, il y a des mensuels. Mais les médias de masse, c'est-à-dire la télévision, il y a uniquement une chaîne, enfin il y a quelques chaînes, mais il y a uniquement une télévision d'État. Le quotidien de référence est Granma, qui est le quotidien organe du parti. Donc en termes de médias de masse, c'est complètement cadenassé et c'est des médias complètement caricaturaux et dépassés. Donc c'est 8 pages pour le Granma et c'est les chiffres de la dernière récolte de canne à sucre dans la province de Granma ou de Cienfuegos et c'est le nombre de tonnes de nickel extraites des mines de Baracoa dans l'Est bon, et les médailles qu'on donne aux travailleurs qui ont bien travaillé. C'est complètement caricatural et ça ne... je veux dire, c'est la voix du parti, c'est figé depuis 40 ans, ça n'a pas grand intérêt, et c'est assez hallucinant de lire ça.
Il n'y a pas des revues justement, ouais. Où tous les intellectuels critiques ou d'autres, ou des initiatives de jeunes, d'artistes ou quoi, qui essayent par différents moyens de critiquer justement, d'offrir une autre information, un peu comme fait Indy Media en Belgique.
Alors, Indy Media Belgique n'existe pas à Cuba, non, il n'y a pas Indy Media Cuba. Mais non, mais c'est ça le problème, c'est que les médias de masse dont on vient de parler, c'est les médias de masse, donc c'est ceux qui sont regardés ou lus par la majorité de la population, et que les sources d'informations un peu alternatives, parce que je n'ai pas envie de dire qu'elles sont complètement alternatives, qui existent, sont tout à fait minoritaires. Donc il y a un très bon exemple qui est la revue Temas, qui existe depuis 94 ou 95, autour de gens comme Rafael Hernandez, autour de l'UNEAC, dont on a parlé tout à l'heure, les écrivains, les artistes de Cuba. Donc toute cette intelligentsia universitaire, des sociologues, des politologues, des gens du monde de la culture, des écrivains, des poètes, etc., qui se sont réunis pour former une équipe de rédaction qui s'ouvre à toute une série de gens, y compris à l'extérieur de Cuba, pour former une revue qui est de très grande qualité, qui s'appelle Temas, et qui fait de longs articles d'analyse sur la société cubaine et sur des thèmes étrangers aussi. C'est de très grande qualité, c'est relativement critique comme son de cloche, dans les limites de ce qui est publiable à Cuba. Hein, donc ça ne va pas jusqu'à des critiques du type de celles que nous on peut faire dans ce bouquin. Donc c'est des critiques mesurées. Mais il y a quand même un espace de débat qui existe. Mais quel est le public touché par cette revue? C'est évidemment un public extrêmement restreint. La population cubaine a beau être extrêmement cultivée, extrêmement consciente politiquement, et donc ce genre de revue, on peut supposer que ça a un impact peut-être plus grand qu'ici. Ça reste néanmoins un nombre de gens extrêmement limité. Donc c'est la petite intelligentsia qui débat entre elles, mais en termes de participation populaire, de mouvement, de masse, d'alternative, en termes de presse et tout ça, l'influence est quasiment nulle.
Ok, je peux poser une question. Il n'y a pas, comme partout dans le monde communiste et même ailleurs, où la presse est assez muselée, une soif d'antennes satellites et de médias occidentaux?
Il y a des préoccupations plus... En général, il y a des préoccupations plus immédiates, plus concrètes, plus quotidiennes chez les gens. Donc, d'abord, on ne trouve pas ces médias-là. Et encore, si on les trouvait et on en trouve quelques-uns dans certains hôtels, ils sont à des prix inabordables. Et en plus, si tu dois bouffer, si tu dois te préoccuper de trouver ta subsistance ou de résoudre tes problèmes de transport, enfin, tous les problèmes liés à la vie quotidienne, et ils sont légion, tu prends pas le temps de t'intéresser à ça. Par ailleurs, ça n'existe pas. Donc tout ce qui est antenne parabolique et connexion par un moyen ou un autre.
Je voulais te dire, Internet, ça n'ouvre pas, ça permet...
Tout ce qui est antenne parabolique, etc., c'est interdit, et Internet n'est autorisé que pour les gens qui en ont une utilisation professionnelle dans des centres de recherche, dans des centres d'études, etc. Donc l'Internet à titre privé, ça n'existe pas. Il y a quelques cybercafés qui viennent d'ouvrir à La Havane, mais c'est pour les touristes, les Cubains n'y ont pas accès. Donc... On peut faire des critiques par rapport à Internet, on peut se poser des questions, etc. Mais de nouveau, c'est une décision relativement aveugle et fermée. Je veux dire, ça n'a pas d'avenir à interdire Internet dans la société cubaine. Justement parce que ce sont la population cubaine est extrêmement ouverte sur le monde, curieuse, avide de savoir, avide d'avoir des contacts avec l'extérieur. Et donc, elle ne va pas supporter longtemps de ne pas avoir accès à Internet.
Et est-ce que les Américains qui ont une base sur l'île n'en profitent pas, comme ils ont déjà fait partout, pour envoyer, soit par radio, soit par télé, soit par d'autres moyens, de la propagande pro-occidentale au public cubain ?
Non, et ça c'est depuis 40 ans, il y a plein de choses qui ne passent pas avec le blocus, mais il y a plein de choses qui passent en revanche. Tu parlais de Radio Marti tout à l'heure, il y a une radio qui émet depuis les côtes de Floride, qui est la radio de l'exil cubain de Miami. Donc il y a à Miami à peu près 1 million d'exilés cubains, dont un certain nombre sont vraiment des militants extrêmement violents d'extrême droite, qui utilisent les ondes de Radio Marti pour vraiment diffuser des envolées lyriques anti-Castro et tout un message pro-capitaliste et anti-communiste primaire dans l'île. Et il y a un certain nombre de gens qui écoutent ça. Très peu, je pense, mais il y a une certaine... Il y a beaucoup de gens qui écoutent avec un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième degré pour être au courant d'un certain nombre de choses en dehors de l'île, mais qui ne sont pas dupes face à un discours qui est en plus tellement caricatural que c'est pas crédible. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont prises, et pas seulement en termes de propagande idéologique, aussi en termes de sabotage, de contamination par des germes, machin. Enfin, au cours des 40 ans de blocus, il y a eu le terrorisme cubain a bien connu aussi, ça, de la part des États-Unis. Il y a toute une série de petits événements comme ça qui se sont passés, notamment, c'était en 95 ou 96, il y a des petites avionnettes cubaines qui ont réussi à passer au-dessus de la Havane et qui ont déversé des milliers de tracts hostiles au régime, et c'est tombé dans les rues de la Havane. Ça n'a strictement aucune influence. De même que les groupes, tu parlais des groupes politiques dissidents, oui, non, à Cuba, oui, il y en a, mais c'est généralement une personne, deux personnes, cinq personnes qui ont un certain retentissement dans les médias étrangers parce que monsieur Fulano, on l'interviewe dans El País comme représentant du groupe dissident Intel, mais ça représente lui et 10 personnes. Donc à l'extérieur, il a un certain retentissement, mais au sein de la société cubaine, son impact est nul.
Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Las visiones, ojalá que pueda tocarme bien canciones.
Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos sin gloria. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa.
Venez d'écouter dans ce reportage pour la seconde fois une chanson du grand compositeur et chanteur cubain Silvio Rodriguez. Alors ceci est une excellente transition pour vous dire que dans le livre donc Le Pas Suspendu de la Révolution, on y trouve un texte de Silvio Rodriguez sur la culture à Cuba. Et j'ai parlé un peu de ça avec Yannick, surtout dans un contexte disons où par exemple la musique cubaine, la salsa principalement, envahit un peu les cafés, les discothèques ici en Europe depuis plusieurs années.
Mais mais c'est vrai que la salsa et la musique cubaine, c'est un vrai phénomène de mode. Cela dit, moi, c'est pas de ça que j'aurais envie de parler tout d'abord. Enfin, la salsa est effectivement un phénomène de mode qui se répand et qui va peut-être retomber aussi vite qu'elle est venue. Hein. On parle du tango argentin maintenant comme étant le truc le plus à la mode. Mais c'est ce qui est la vitrine la plus visible. D'ailleurs, demande à certains jeunes musiciens cubains ce qu'ils pensent de la vague à la mode sur Cuba. Tu vas voir qu'ils vont te répondre des choses pas très gentilles. Parce qu'il y a énormément de jeunes musiciens extrêmement talentueux qui se disent « Mais qu'est-ce qu'ils viennent ?» Avec quoi ils viennent là avec Buena Vista Social Club, avec les papis, avec Compay Segundo? Ok, c'est très bien, mais ces gens faisaient de la musique dans les années 50 et c'est eux qui font un tabac maintenant. Nous, on est des jeunes musiciens à Cuba, on est plein de talent, on fait de la musique fantastique et on est complètement minorisés et personne ne nous écoute. Il y a de ça aussi. La salsa qu'on entend, c'est souvent du son, c'est souvent la vieille musique cubaine qui est superbe, mais c'est un peu réducteur. Il y a d'ailleurs un article dans le bouquin de Maya Roy, qui est musicologue et qui connaît très bien les musiques cubaines, qui explique ça à la perfection, qui parle des nouveaux groupes cubains qui amènent énormément de choses sur le plan musical et dont on ne parle pas parce que c'est les papis et Compay en tête qui font un tabac. Mais donc ça, c'est peut-être le côté le plus médiatique, le plus visible de l'iceberg. Un iceberg dans la mer des Caraïbes, c'est pas très crédible. Mais
Cuba est un peu devenu un produit de consommation. Oui. On a un peu l'impression, quoi, bon, outre la situation, les gens connaissent Cuba, ce produit de consommation, soit c'est le rhum, soit c'est la salsa, ouais, Buena Vista Social Club, quoi, c'est ordinaire.
Mais donc c'est pour ça que moi c'est pas à ça que je pense en premier lieu quand tu parles de la culture à Cuba. Il y a ça, bien entendu, mais ces 40 ans de révolution, ces 40 ans de culture à la portée de tous. Et la culture, ça commence par l'éducation, un analphabétisme massif réduit à zéro, par le plus fort taux d'universitaires au mètre carré, par des centres de recherche dans toutes les villes du pays, des recherches en biotechnologie, en biologie, en termes de vaccins, en termes de médecine, parfois plus développées que dans certains pays occidentaux et notamment les États-Unis. Il y a toute une série d'affections, notamment pour les yeux, pour les affections cardiaques, etc., qui sont traitées à Cuba alors qu'elles ne le sont pas, ou moins bien, aux États-Unis. Donc il y a la culture, c'est aussi ça, c'est aussi la recherche, l'enseignement, mais il y a aussi tout ce qui est production culturelle, les livres, le cinéma, le théâtre, la danse, tous les types de musique, le jazz, la chanson, la salsa. C'est fourmillant d'activités de production culturelle depuis 40 ans. Ça n'a pas cessé, même au plus noir de la période spéciale. Les gens n'avaient pas toujours à bouffer, mais ils allaient au cinéma, ils allaient au théâtre, ils allaient écouter du jazz, ils allaient au concert. Et c'est quelque chose qui est encore très vrai aujourd'hui, depuis 2-3 ans, depuis que la situation va un peu mieux, et depuis aussi l'arrivée comme ministre de la Culture d'Abel Prieto, qui a aussi fait un très très bon article sur la culture à Cuba dans le bouquin. Je fais la pub en passant. Avec l'arrivée au ministère de la Culture d'Abel Prieto, qui était auparavant responsable de l'UNEAC, l'Union Nationale des Écrivains et des Artistes de Cuba. Qui est un de ces dirigeants qu'on appelle les cuadras, les jeunes, les gens qui ont une quarantaine d'années, qui sont des gens extrêmement dynamiques dans l'entourage de Fidel, qui ont plein d'idées, qui ont plein d'énergie et qui font un travail assez étonnant. Lui, en termes de culture, a ben un boulot considérable. Et dans tous les domaines culturels, et jusque dans les coins les plus reculés de l'île. Et là, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La culture à Cuba, c'est quelque chose de gigantesque. C'est impossible de décrire ça en 5 minutes comme ça, mais c'est des initiatives permanentes et pluridisciplinaires dans tous les domaines et partout dans l'île. Production de bouquins, production de films, il y a le Festival du film de La Havane, il y a Gutiérrez Alea qu'on connaît, mais il y en a plein d'autres, de réalisateurs de cinéma, il y a le documentaire, il y a vraiment... c'est foisonnant.
Depuis quelques années, étant donné l'âge avancé du leader Maximo, de Fidel Castro, beaucoup de gens, ennemis ou amis, spéculent un peu sur l'avenir de Cuba et de son leader et du pouvoir cubain en fait. Récemment, Fidel Castro a désigné son frère pour Raúl Castro, donc pour lui succéder. Yannick nous donne son opinion sur cela.
Raúl Castro, le frère de Fidel en successeur du papa de la Révolution, ça a l'air d'être une chose bien déterminée. Fidel, il y a quelques mois, a désigné officiellement, alors qu'il n'avait pas fait précédemment, il n'avait jamais fait, il a déclaré officiellement que Raúl serait son successeur s'il lui arrivait quelque chose, à lui Fidel. Moi, ça ne me ravit pas parce que c'est... Et je pense que ça, enfin, c'est pas tellement moi qui importe, évidemment. Je pense que ça ne ravit que très très peu de Cubains. Raoul est quelqu'un qui n'a pas du tout le soutien que peut avoir Fidel. Il n'a pas du tout le charisme de Fidel. Il n'a pas du tout. Il n'a peut-être même pas la légitimité historique que peut avoir Fidel. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas apprécié à Cuba, qui n'est pas aimé, qui est. Les gens l'ignorent ou le détestent, c'est vraiment pas quelqu'un qui a un soutien massif derrière lui. Donc mais évidemment, c'est lui qui contrôle l'armée, et quand on sait que l'armée contrôle les principaux leviers économiques du pays, c'est évident que c'est lui qui est une des clés de voûte du système cubain. Maintenant, le problème, c'est une fois de plus, c'est si on s'oriente vers une reprise en main, ou en tout cas une succession relativement autoritaire dans les mains de Raoul, on garde tout tel quel, c'est le statu quo, et moi en tant que patron de l'armée et des grands leviers économiques, je mène la barque de la même manière, et vous avez tous intérêt à être autour de moi. C'est de nouveau, c'est assez peu emballant, je trouve. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que l'accent soit bien plus mis, non pas sur Raoul, mais sur des gens de l'entourage immédiat de Fidel, qui sont des gens en général plus jeunes, beaucoup plus jeunes, des gens d'une quarantaine ou une cinquantaine d'années,
c'est
qui sont. Ouais, mais ces gens sont particulièrement capables, compétents et intéressants. Je pense notamment à Carlos Lache, qui est le vice-président et le ministre de l'économie, qui est quelqu'un d'assez remarquable, qui travaille relativement dans l'ombre de Fidel depuis des années. Il y a lui, il y a Alarcón, qui est le président de l'Assemblée populaire, l'Assemblée nationale. Il y a Abel Prieto, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le ministre de la Culture, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant. Donc toute cette bande de cuadras, de quadragénaires qui sont dans l'entourage immédiat de Fidel, sont des gens qui non seulement ont énormément de compétences, de capacités, peut-être une autre ouverture à la population, à ses demandes, etc., mais qui en plus ont un soutien réel de la part de la population, qui voit le travail qui est effectué, notamment en termes culturels par Abel, en termes économiques par l'art, etc. Ces gens ont une véritable estime de la part de la population, et je trouve que ce serait bien plus profitable de mettre l'accent sur ces gens-là que sur Raoul, qui n'a aucun appui ou presque de la part de la population.
Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.